Vous écoutez RMC.
Il est 1h26 du matin en France, il est 19h26 ici dans le studio américain de l'After. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Younes El Haïnaoui avec nous, le père de Neil, titulaire de la sélection marocaine. Et un but a été marqué dans le match Uruguay-Cap-Vert, Jérôme Sillon.
Ouais, nouvelle surprise et tout part d'une erreur terrible de Matias Oliveira sur une touche d'un de ses coéquipiers en retrait. Il fait une passe latérale et Muslera qui sort. On se demande un petit peu pourquoi il est devancé par l'entrant Elio Varela. Il venait d'entrer en jeu, Elio Varela, il le devance.
Joli but.
Et il marque dans le but vide.
Muslera fait n'importe quoi. Muslera fait n'importe quoi, mais en éliminant Muslera, il l'armait quand même de voler, entre guillemets, dans le but. Il n'était pas totalement.
Le geste final est pas mal. Mais bon, c'est énorme boulette de la défense.
Deux et du suspense dans ce match.
Et tout est relancé.
Younes, alors, il y a eu une période nancéenne pour Neil, et on a avec nous l'homme qui incarne l'AS Nancy Lorraine. C'est Mustapha Hadji qui est là. Bonsoir.
Attendez.
Ah, on l'entend. Il est loin, il est à Marrakech. Moust, t'es avec nous.
Ah, il y a peut-être un petit décalage, un petit délai. Ah,
c'est un gros décalage. Bon, je pense qu'il faut reconnecter.
Bon, on va le retrouver. Ah, il est au Maroc, Moustapha.
Ouais, je pense qu'il s'est installé, même avec son frère Youssouf, qui est adjoint à la sélection, là avec Neil, qui est de Nancy, comme tu viens de le dire. Youssouf et Mousse, ils nous ont fait rêver, nous, devant notre petit écran. Et aujourd'hui, de les voir conseiller Neil et de faire partie de l'équipe, c'est super pour le Maroc.
Après, oui. Même si tu adores Nancy et que tu as passé du temps dans ta vie, quand tu as été sportif professionnel, je pense que c'est logique d'aller s'installer au Maroc. Hein.
Oui, mais attends,
et sans
enfoncer
les Nancyens.
Tu viens Nancy.
Si tu voulais t'installer.
Ouais, ouais. Le Nancy. Climat, c'est vrai, quand l'hiver il fait froid, c'est sec.
Il est diplomate.
À tout point de vue, il y a quelques villes au Maroc que je préfère quand même à Nancy, sans offenser personne.
Ah, t'es dur, Daniel. La place Stanislas, elle est magnifique.
Ouais, et après, sinon, à part ça.
Après, il y a Séchamps, il y a Essay-les-Nancy.
À part ça, Unes,
t'as autre chose. Villeroy de Pulnois, le golf d'Ingeray.
Ah, ouais, le golf, ça passe.
Ça sent le gars qui joue au golf.
Écoute, les gens, le tennis en général,
je pense que je vais quand même préférer Marrakech, Rabat, Tanger.
Il y a aussi des golfs d'ailleurs.
Voilà.
Bon, on est en train d'essayer de régler la technique avec.
Dans ce cas, je m'intercale. Oui, ouais. J'avais une question sur ce qui nous a fasciné là, notamment depuis le début, ce milieu de terrain. Parce qu'il y a El Haïnaoui, mais il y a Boadi à côté qui est un phénomène.
Et
en fait, t'as deux gamins, deux chevaux légers qui
jouent comme... Ils ont 5 ans d'écart quand même les deux.
Non, d'accord, mais qui jouent comme des darons, quoi. Je veux dire, qui jouent déjà comme des patrons. C'est quand même dingue, ça. Ça aussi, c'est la nouvelle histoire du Maroc.
C'est vrai, surprise très agréable. On avait entendu parler de lui à Lille avec les prestations que tout le monde sait qu'il a déjà fait. Mais là, contre le Brésil, il a bluffé tout le monde. Et donc, c'est vraiment de très bon augure pour Neil d'avoir un partenaire de jeu comme ça, qui a l'air vraiment très généreux aussi, dans l'effort, dans les passes. Et donc, Neil, en tout cas, est très heureux de pouvoir partager le terrain avec lui.
Comment ça se passe d'ailleurs là, au niveau de la vie américaine là, lui, il est bien là avec la sélection, ça...
Ouais, et quelque chose de vraiment surprenant, c'est que le coach leur laisse des après-midi libres. Donc, ils débarquent à Manhattan... en plein après-midi.
Le camp de base, il est là ?
Ils sont dans le New Jersey, pas loin. Et donc, c'est la première fois.
Les Sénégalais aussi, ils sont pas loin d'ici.
Mais attends, s'ils sont libres l'après-midi, ils peuvent venir dans leur studio.
Ouais, donc, c'est assez inhabituel. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intelligent de la part du coach. Plutôt que de les garder enfermés, de les laisser un peu aller voir leur famille.
On a raconté ça dans l'after récemment, tu sais, sur les différences d'appréciation et d'appréhension de ces trucs-là. Et de plus en plus.
Deschamps, il lâche les appels.
Tu peux l'amener à l'US Open, lui dire, regarde, c'est là que papa, c'est là que j'ai battu Nadal.
Déjà fait.
Ouais, je les ai déjà amenés à l'US Open, mais non, on est allé à Central Park et je pense que pour eux, c'est très bon pour eux de pas rester tout le temps.
Je trouve que c'est une super gestion d'équipe de laisser de la liberté aux joueurs.
Je crois que Mustapha Hadji nous entend pour de bon. Mustapha, bonsoir.
Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous appréciez d'être à New York.
Ah ouais, j'avoue que c'est pas mal.
Dit-il de Marrakech, tu dois être pas trop mal toi aussi, à part il fait peut-être un peu chaud, non? Ça va Mousse, c'est Younes.
Oh Younes, comment va frérot, tu vas bien?
Très bien, merci.
Je t'écoute, depuis tout à l'heure, t'as les cheveux gris, y a pas que les cheveux gris, hein. T'as perdu un peu de cheveux aussi.
Oh, pas trop. Hein.
Non, ça va.
Il chambre.
Il m'écoute, il me voit pas alors si il dit ça.
Moustapha.
Non, non, je t'ai vu il y a pas très longtemps. Ouais, dites-moi.
C'est quoi la filière nancéenne marocaine là, organisée par les Hadji? Il faut nous raconter.
Bah non, bah aujourd'hui il y a Ilan Aoui aussi.
Bah c'est ça, voilà. Non mais
je pense que la formation nancéenne a toujours été au sein de l'équipe nationale du Maroc. Donc on a eu énormément de joueurs qui ont été formés à Nancy. Donc ça a commencé certes par moi, mais après on a eu Abdes Ouadou, on a eu Chrétien, on a eu Zerka, on a eu Youssouf Hadji, on a eu Ilan Aoui aujourd'hui. On en a pas mal. C'est un petit peu l'académie de l'équipe nationale du Maroc.
Ouais, c'est assez surprenant.
Avec le lien est quand même un peu fou.
Bah, hein, on va commencer par Youssef Moussaïd. Peut-être c'est pas le pionnier, mais Youssef, voilà, Moussaïd, pour citer exactement. Un autre nom qui aussi ouais, était.
C'est vrai que Zerka, on l'avait oublié.
Youssef Zerka qui signait ses buts dans Zerka, Z.
Et puis, voilà, exactement. Mais Youssef Moussaïd, c'était un phénomène qui n'a pas pu percer, malheureusement, mais ça a été un super joueur. Que Younes, certainement, il a connu. Mais c'est un garçon qui avait énormément de qualités. Et malheureusement, par sa timidité, par peut-être son entourage, qui est passé à côté d'une belle carrière.
Bon, alors parlons un peu de Nail El Aïnaoui, qui est donc désormais titulaire en équipe du Maroc, qui a démarré à Nancy. Moustapha, est-ce que tu es surpris de sa progression? Est-ce que tu, quand tu le vois jouer, là, tu te dis, ah ouais, quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne à ce niveau-là? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui?
Non, mais mon frère Youssouf le connaît très bien. Et on en avait déjà parlé auparavant. J'avais appelé son papa, Younes Dujab, pour qu'il vienne en équipe nationale du Maroc. Il m'avait dit, écoute, attends un petit peu, le gamin, il n'est pas prêt. Et, mais on savait qu'il avait énormément de qualité. Avant déjà qu'il aille à Lens,
il y a hors-jeu.
On savait
hors-jeu.
Attends, il y a un but pour l'Uruguay, mais qui a été refusé vite fait, Jérôme. Hein, le but a été refusé pour hors-jeu.
Ouais, c'était très chaud suite à un corner, effectivement, de la droite tiré pour l'Uruguay. Eh bien, il y avait une position de hors-jeu qui est quand même limite. Va falloir qu'on revoie ça.
Franchement, faut le revoir parce que je ne vois pas le hors-jeu, moi.
Non, ouais, si, là, c'est après, hors-jeu. À la fin. Là.
Alors, il faut raconter que derrière, il y a une reprise, que le ballon est contré par un défenseur capverdien. Ça atterrit sur le poteau. Derrière, Vosinha veut la sortir, mais il n'arrive pas à contrôler le ballon. Et il y a un Uruguayen qui arrive à le pousser au fond du but. Il faut revoir cette histoire-là. Hein. Ce n'est pas dit du tout qu'il est hors-jeu. Pour l'instant, le but a été refusé par l'arbitre norvégien. On en est à deux partout, mais c'est revu par l'arbitrage.
Sur la DC, le tout dernier joueur touche le ballon près du poteau. Moustapha Hadji est avec nous pour parler de Nail El Aïnaoui. Quel est son meilleur poste, Moustapha, à votre avis? Parce que là, il joue là, en milieu défensif, mais est-ce que c'est vraiment là qu'il est le meilleur?
Non, mais moi je trouve, depuis que Badi est arrivé, il se projette plus vers l'avant. Donc aujourd'hui, il est dans un poste un petit peu où il peut déjà intégrer. Déjà, il est devant Badi. Et aujourd'hui c'est un piston et il a énormément de qualité, il a dans le jeu, c'est phénoménal. C'est pas parce que le papa, hein, t'es pas là Younes, parce que je t'en avais déjà parlé et je sais que c'est un garçon qui peut apporter énormément offensivement aussi. Il n'y a pas que défensivement qu'il apporte, mais aujourd'hui il a plusieurs occasions sur les deux matchs déjà. Il a prouvé, il a déjà marqué auparavant et en Coupe d'Afrique il a été phénoménal. Mais aujourd'hui avec Badi, je crois que derrière lui il a quelqu'un qui a une stabilité, qui peut pouvoir sortir les ballons proprement et lui il va pouvoir se projeter vers l'avant, il va apporter un petit peu cet appui à ses attaquants et en tant que piston, je pense qu'il est intéressant même devant le but. Je pense qu'il va, ces infiltrations là, il va pouvoir les faire aujourd'hui. Parce qu'auparavant, on lui demandait un petit peu de rester devant la défense, de sécuriser un petit peu les contre-attaques. Mais aujourd'hui, il peut se projeter vers l'avant et il est plus intéressant. Pour moi, comme il joue aujourd'hui en équipe nationale, le coach, il a été très intelligent. Il l'a mis un petit peu comme piston et ça valait lui au Naï un petit peu. Mais Naël, je pense qu'il est dans son meilleur poste là.
Une question un peu plus globale sur le Maroc. Le match contre l'Écosse, on a constaté en fait, et avec le Brésil aussi, mais en fait, le Maroc a un nouveau statut. C'est-à-dire qu'il y a eu la demi-finale il y a 4 ans, la CAN, tout le boulot que fait le Maroc, qui va en plus recevoir bientôt la Coupe du Monde aussi. Moustapha, vous avez l'impression d'être entré dans une nouvelle ère. Quand le Maroc arrive face à l'Écosse, on se dit bon, bah, le Maroc, normalement, il gagne tranquille.
Quand ils sont dans un groupe avec Brésil, Écosse et Haïti, on se pose la question, le Maroc doit passer et sortir de la poule. Ça, c'est un vrai changement, quoi.
Ouais, vous savez, moi, on m'avait posé la question quand le Maroc, le groupe du Maroc est sorti. On a dit oui, le Brésil. Et sincèrement, moi, je l'ai pensé parce que je disais attention, c'est le Brésil qui a le Maroc dans son groupe. Et on en a rigolé, on s'est foutu de moi. Mais connaissant la qualité et connaissant un petit peu le cette équipe-là et l'audace de cette équipe-là, et même je pense qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Maroc, même avant 2022, on savait qu'il y a énormément de qualité, on travaillait. Il fallait, comme vous l'avez dit, il faut trouver. Aujourd'hui, on a un statut que les équipes respectent, l'adversaire respecte. Mais ce qu'on a pu voir contre le Brésil et l'Écosse, je pense que ça a changé énormément de choses, la vision des gens, et je pense que la pensée des équipes de l'adversaire qu'on va jouer aujourd'hui. Quand on a vu l'Écosse jouer son premier match avec deux attaquants, bah ça a été différent parce qu'ils sont passés derrière pratiquement à 4-5 c'est 4-5-1 qu'ils ont joué l'Écosse pratiquement. Alors que les matchs, ils ont toujours joué avec deux attaquants, mais on joue contre le Maroc. Ils se sont dit, on va quand même sécuriser, on va jouer défensif, on les attend. Donc ça a énormément changé. Même le Brésil, aujourd'hui, quand on a joué cette première mi-temps, les Brésiliens, ils ont énormément du mal. Et donc ça a renforcé un petit peu les pensées qu'ont tous les adversaires vis-à-vis du Maroc.
Est-ce que Moustapha aurait fait un bonjour le tennis, Younes ?
Il joue très bien au tennis, Mous, c'est vrai ?
Younes, ouais, plus le paddle aujourd'hui.
Mais ça y est, c'est reconverti.
En fait, ouais, non, mais Younes, c'était, vous savez, Younes, c'était c'est déjà un ami, et on est de la même région, mais je l'ai toujours suivi, je l'ai toujours aimé. Et quand on représente le Maroc comme il l'a représenté, moi j'ai regardé son match d'une semaine là qu'il a joué. C'est pas reposé, il a joué une semaine à jouer, c'est pas possible. Donc maintenant avec Arazi tout ça, c'est vrai que Younes, moi je suis un peu plus proche de Younes parce qu'il est de ma région, il était de ma ville, et c'est quelqu'un que j'ai toujours
suivi. Il devient quoi, Hicham Arazi? Je l'ai pas vu depuis une éternité, on le voit plus nulle part.
Ouais, merci Mousse pour tes compliments, hein. Toi aussi tu nous as fait rêver avec ton but d'anthologie contre la Roumanie. Et Daniel, pour répondre à ta question, Hicham, c'est le directeur du tournoi de l'ATP du trophée Hassan II de Marrakech. Il est aussi entraîneur de la Coupe Davis au Maroc.
Très bien.
Il y a quelques jeunes qui pointent leur nez, là, qui sont nés en 2007-2008, donc il essaye de s'en occuper. Et il a deux filles aussi, donc il est installé à Casablanca, lui.
Ah, lui, il me faisait kiffer.
Ah ouais, le magicien. Là,
Est-ce que c'était pas le Marcelo Rios marocain?
Ouais.
Il a un peu la même dégaine.
Rios a occupé la première place mondiale, pas Hicham Arazi, où parfois on se disait qu'il se reposait trop sur son talent parce qu'il avait une main absolument extraordinaire. Mais quand il était dans un jour où il avait vraiment envie de se faire mal, en plus de son talent, ça donnait des
problèmes éternels de tous les sportifs talentueux qui n'ont pas l'habitude de travailler, d'être laborieux pour y réussir. Donc, effectivement, quand les deux sont alignés, le talent et le travail, ben on a des Roger Federer, des Rafael Nadal.
Moustapha, merci beaucoup, c'était sympa de vous avoir, et puis on souhaite une bonne Coupe du Monde au Maroc, évidemment.
Merci Mousse.
Merci de m'avoir permis de dire bonjour à Younes, et je lui souhaite tout le bonheur et que son fils ne marque ni ne fait rêver ni les Marocains.
Merci Mousse. Merci.
Ciao, oui, merci.
Potentiellement, il y a un Maroc-France là. J'ai pas regardé encore le tableau.
Moi, je fais exprès de ne pas regarder les projections de ce magasin.
Non, pas d'entrée, on va dire.
En finale.
Voilà, ça serait le.
En finale, pourquoi pas. Comment il débriefe les matchs ? Est-ce qu'il débriefe les matchs avec toi ?
Plus avec ses frères. Moi, je lui parle rarement. Moi, je me soucie de savoir
les frères,
déjà.
Ils connaissent le foot, les frères, pour pouvoir faire des débriefs.
Ah, alors là, ils sont.
Il y en a un là. On va l'inviter. On va voir s'il est vraiment bon parce que s'il débriefe, faut pas qu'il passe à côté du débrief. Est-ce qu'il est vraiment bon, le frère ?
Il paraît qu'ils écoutent l'after. avant de faire le débrief à. Ah,
s'il écoute l'after, ça veut dire qu'il connaît, mais sinon, ah, c'est compliqué. Hein.
Non, il veut pas.
Il veut pas. Il y a une place, hein, il y a un micro.
C'est vrai que moi, avec Neil, j'évite de lui. Enfin, je le félicite toujours, même parfois si. Moi, je trouve qu'il joue toujours bien d'abord, donc jamais je vais lui faire un commentaire négatif sur sa prestation.
Et après, non, mais même si tu sais que parfois il était moins bien et qu'il a raté des trucs.
Ouais, parce que moi,
en tant que père, je protège.
C'est l'éducation positive à l'américaine.
S'il traîne la patte, si je vois qu'il traîne la patte, qu'il fait pas les efforts, là, je vais m'inquiéter. Mais c'est jamais le cas. Donc je vois que lui, il est au max, qu'il essaye de faire du mieux qu'il peut. Donc à partir de là, je peux que l'encourager.
Quand on fait le max, on peut pas reprocher.
Voilà. Tout à fait.
Et c'est plutôt ce profil de joueur. Hein.
Et pas que sur le terrain. C'est-à-dire, il fait le max partout. Au niveau de sa récupération, au niveau de son alimentation, au niveau de... Vraiment, il laisse aucun détail au hasard.
Il a une très bonne mentalité, tout le monde le sait.
T'es inquiet des fois quand tu le vois jouer? En tant que père, je veux dire, tu te dis...
Ben ouais, parce qu'on a déjà vécu des blessures. Ben, on a vu, bon, le genou, le ligament, c'était pas impressionnant. Mais bon, à la finale, quand il a l'arcade ensemble, on se dit, ben, finalement, d'où ça sort le sang? Bon, après, on a vu que c'était l'arcade. Le nez, il a eu des fractures au nez. Donc là, on se dit, mince, voilà, c'est un peu l'ennemi numéro un de tous les sportifs. Donc c'est un peu la crainte à chaque fois qu'il y ait une blessure qui vienne tout stopper.
Pour répondre à ta question, Gilbert, ils vont croiser, enfin normalement, puisqu'ils vont finir dans les deux premiers, avec le groupe F, donc Pays-Bas-Japon, on va dire déjà en 16e, ouais, avant de voir.
La Suède ne sont plus...
Enfin, je te dis ça,
ils sont dans le coup. Mais
au Mexique, ça serait, s'ils finissent numéro 2, ils jouent au Mexique, et s'ils finissent numéro 1, ça serait à Houston.
Et en famille, vous allez suivre...
Ah bah ouais, on est les premiers supporters.
Ils finissent deuxième, c'est à Monterrey au Mexique.
Moi, avec les voyages, ça me fait pas peur. Et puis, les frères aiment bien aussi. Pour le moment, ils sont pris un peu de temps pour faire ça, donc voilà.
Donc visiblement, vu le look d'un de tes
sport,
fils, si, il y en a un qui a un look de surfeur là.
Ouais, il fait du surf, c'est l'aviron. C'est le Paul France d'aviron à Nancy, et le grand, il est dans la cuisine, et le petit encore.
Ah,
bien.
Mais c'est moi qui ai mal vu, ou enfin vous êtes grand, il est pas aussi grand que vous.
Non, Neil, c'est le seul.
On est
le
d'accord.
Seul de la famille qui est un peu moins grand, puisqu'il doit faire 1m87 quand même. Mais c'est vrai que les frères sont tous au-dessus d'un 80.
Je le voyais pas aussi grand que ça.
Ouais. Il a des grandes jambes, en fait.
Je le voyais pas du tout aussi grand que ça, parce que là, toi.
Ouais, moi, je fais un 93. Toi, t'es très grand.
Ton fils qui est là, je le vois aussi très grand.
Plus grand que son père. Le fils qui est là.
Voilà.
Mais
il vit comment à Rome? Il est tout seul ou il y a du monde avec lui? Il a une petite copine ou...
Voilà, il y a sa petite copine qui vit avec lui dans la maison. Il y a souvent sa maman aussi qui est un petit peu là pour un peu s'occuper de la logistique.
Ça va pas plaire à sa copine.
Il avait une énorme maison et finalement, comme il a subi un petit une mésaventure.
Il a été victime d'un cambriolage.
Donc malheureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Mais depuis, il a déménagé, il est dans un appartement un peu plus sécurisé. Oui,
parce que la vie de footballeur à Rome, c'est pas forcément, Daniel, tu connais bien, c'est pas forcément le sinécure, quoi.
Oui, effectivement, si t'es vedette, c'est très compliqué de sortir. Ça, en fait, tu profites pas réellement de la ville.
Un joueur de la Roma, on parlait tout à l'heure de l'effervescence des supporters au Maroc, qui sont très motivés, mais les Italiens sont pas mal non plus.
Et surtout dans un club comme Rome, j'imagine qu'il doit pas vivre en ville.
Non, il vient
à l'extérieur. Il va vivre à côté, loin du centre de Trigor. Et souvent, les joueurs habitent par là.
Il y a un club qui le fait rêver, où il se dit, ça, c'est le club que, par exemple, Mbappé, il rêvait du Real quand il était gamin.
Nancy Lorraine.
On voyait les posters dans sa chambre et tout. Il y a un club qui lui faisait rêver, gamin.
Alors, c'est la ville où il a passé toute son enfance, c'est Barcelone. Puisqu'il était là-bas de 0 jusqu'à 10-11 ans.
Ah, donc il a grandi avec le Barça, quoi.
Voilà. Moi, j'aurais aimé que ça soit Madrid, mais bon, lui, c'est le Barça.
Ah, donc si demain le Barça passe un coup de fil,
Et ça sera l'homme le plus heureux du monde.
Bon, c'est un bel objectif, c'est pas mal.
Ouais,
c'est pas mal.
On va faire ça comme ça,
ça peut correspondre.
Il reste 10 minutes à jouer. Jérôme, fais-nous un petit point sur le match. On t'a un peu oublié là. En plus, il y a du suspense. Il y a 2-2 entre l'Uruguay et le Cap-Vert.
Ouais, et puis c'est passé quand même beaucoup de choses parce qu'il y a ce but refusé qui va quand même faire jaser parce que le hors-jeu, donc suite au corner, alors que l'Uruguay avait marqué, le hors-jeu, franchement, ça doit être au millimètre, Daniel. Je sais pas si t'as vu l'image, on a revu.
Non, mais c'est la position en fait, c'est parce que c'est le gars qui est en fait, il est en dehors du terrain et il y a un bout de son corps qui est, c'est un peu particulier comme
type de
hors-jeu.
Mais c'est la partie de son corps qui est dans le terrain, Daniel, qui compte. Hein. Et c'est ça que moi je comprends pas, c'est que je vois pas, enfin la différence, elle doit être vraiment, mais au millimètre par rapport
rapport au joueur du Cap-Vert qui lui était sur sa ligne de but en train de garder le premier poteau. Enfin, franchement, on en reste à deux partout. Il y a eu beaucoup de changements. Darwin Núñez est entré notamment du côté de l'Uruguay. Il reste 10 minutes. Énorme suspense à Miami entre
l'Uruguay
et le Cap-Vert.
C'est un très bon match. Ça part dans tous les sens.
Bon, on va se concentrer un peu sur le match. Younes, avant de se quitter, j'ai à côté de moi Daniel qui, dès que Djokovic joue, il y a des boutons qui lui poussent.
Pas du tout.
Il fait une Djokovic. Donc il faut le soigner de sa Djokovic.
Alors parce qu'il est super fan ou parce qu'il y a des petites choses qui l'énervent?
En fait, je sais reconnaître que c'est le plus grand, mais tu sais que dans le tennis, on a les affections. Voilà. Et donc t'as des affections pour certains joueurs et d'autres que t'aimes pas pour leur mentalité ou des choses. Mais je suis lucide.
Alors est-ce qu'en tant que journaliste t'as le droit de faire part de tes préférences?
Je ne suis pas le tennis. Je ne le suis plus. Je le suivais.
En tout cas, il a fait part de ses préférences.
Il y a 30 ans. Donc je peux dire que
c'est vrai qu'il y a des petites choses quand on connaît bien le sport qui peuvent être un peu dérangeantes au niveau de son attitude, surtout quand on a en face des yeux un Nadal. Et voilà.
Explique-nous quoi là. Par exemple, tu fais part de ses arrêts dans les matchs là quand il a
un petit peu comment on voit qu'il s'adresse à son clan. Moi qui suis très proche de Goran Ivanišević, ça me faisait mal au cœur de voir Goran assis dans les tribunes et de se faire incendier parce que Nova gratte un coup droit. voilà, mais c'est ce qui se passe. Bon, on a vu Kobo.
C'est un fonctionnement. Il fallait peut-être qu'il se décharge sur quelqu'un. Quoi.
Bon, ça, c'était un peu gênant. Quand on est numéro un mondial et une icône comme lui, ben, une chose, il faut penser à donner l'exemple aux jeunes. Et aujourd'hui, on risque de le voir de plus en plus. Des joueurs qui se mettent en rage contre le team, qui est assis dans les tribunes.
Zverev,
ils sont
pour
rien. Zverev, Koboli aussi, à un moment, alors que c'est son père. Koboli, Zverev, c'est son père aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent se permettre ce genre de choses. Mais à part ça, je veux dire, c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes qui veulent jouer au tennis, parce que c'est vraiment le joueur qui n'a pas cessé d'arrêter de vouloir progresser tout au long de sa carrière.
C'est le plus complet.
Voilà.
Travail physique, sur l'alimentation, tout le reste qu'il y a autour aussi.
Exactement, il change d'entraîneur, on voit qu'il a changé de régime alimentaire, et donc ça, c'est magnifique. Et
ça, j'ai vu, quand il a arrêté le gluten, tous les journalistes de tennis, ils ont arrêté le gluten. C'est incroyable.
Donc ça, vraiment, c'est à saluer très fort, et on a eu la chance, nous, en tout cas, de vivre une génération avec ces trois monstres du tennis, et ça, c'est tout bénef.
Toi, quand t'étais gamin, c'était qui ton...
Ivan Lendl.
C'est marrant parce qu'il faisait pas l'unanimité.
C'est peut-être parce qu'il était numéro un, va savoir. Ouais. Mais après, bon.
Même dans Lendl McEnroe, t'étais Lendl.
Ouais.
Il n'y a pas une époque où tu kiffais un peu Noah.
Yannick, quand il gagne en 83, j'ai 12 ans. Je dis, mais moi aussi, je veux jouer ce tournoi, je veux être là-bas.
Ils pourraient être cousins un peu, les deux. Voilà.
J'ai eu la chance de le connaître.
Non, mais dans la coulitude, on va dire.
Sauf qu'il n'est pas pieds nus. Parce que Yannick serait venu pieds nus.
Yannick, ça a été un déclencheur, et puis voilà, si c'était à refaire, ben je referais la même chose.
Bon, ben en tout cas, merci
beaucoup.
Merci à vous.
Merci,
c'est sympa. Et bonne Coupe du Monde.
Il y en a qui veulent aller revoir le fameux 5e set de contre Roddy.
On va avoir un peu de temps.
Interminable, c'était la journée à peu près.
Bonne fin de Coupe du Monde à vous.
Ça existe encore, ça, sur YouTube, si on veut voir.
Je sais pas, ouais.
Oh, ouais, il y a ça.
Ouais, bien sûr. Voilà, il est là-bas.
21-19.
Le producteur l'a trouvé. Merci les deux.
À très bientôt
pour reparler foot et tennis. Et on souhaite une longue carrière, évidemment, à Nail El Aynaoui, qui est déjà très bon sur le terrain avec l'équipe du Maroc.
Il est sur orbite et il va peut-être se retrouver à Houston en 16e.
Ah, voilà. Houston, on n'a pas de problème, en l'occurrence.
Non.